Onde Noire, deuxième partie. Et pour commencer cette deuxième partie, Jacques va nous parler d'un roux qu'on n'aurait pas imaginé retrouver, avec une plume d'ailleurs.
Une plume de, cette, cette qualité. Oui, en fait, parce que le héros dont je vais vous parler, c'est James Bond. Bon, vous le connaissez tous, James Bond, créé par Ian Fleming il y a déjà bien longtemps, lequel Ian Fleming est mort depuis aussi un bon moment. Et là, il semblerait que ses héritiers, enfin ses ayants droit en tous les cas, aient autorisé un écrivain anglais de très grand talent, William Boyd, à écrire une nouvelle aventure de James Bond.
Ça faisait un petit moment quand même que William Boyd flirtait avec du roman noir, des enquêtes.
William Boyd a écrit il y a 3-4 ans, exactement, 3-4 ans, un roman d'espionnage qui s'appelait La vie aux aguets. Excellent roman d'espionnage, très très bien fait. Et donc, effectivement, ça lui donnait toute autorité pour écrire.
Au moins légitimité. Légitimité, oui. Dans le roman,
L'autorité, c'est plutôt en fait la famille qui lui a donné. Alors, ça, le roman s'appelle Solo. Il est paru aux éditions du Seuil en français au début du mois de mars.
Et c'est pas Seuil policier, c'est Seuil.
Non, c'est Seuil. Seuil. Et il est traduit par Christiane Bess. Alors, cette aventure se situe en 1969. James à 45 ans. On le sait parce qu'en fait, dans le premier chapitre, il fête son anniversaire tout seul, et oui, tout seul dans une chambre d'hôtel. Apparemment, il a un petit peu abusé des cocktails, il a mal à la tête. Et juste après, quelques jours après, même pas, M, son chef, on le connaît, M, le mystérieux, va l'envoyer en mission aux Zanzarim. Alors, Zanzarim, c'est un pays fictif d'Afrique.
Ah bon ? Il n'existe pas, ça,
il n'existe pas, mais...
Zanzarim, pourtant.
Mais on sent que bon, ça pourrait en être plusieurs. Surtout que, en fait, le pays est en guerre civile car il y a une ethnie qui voudrait bien faire sécession, voire prendre carrément possession de tout le pays. Alors, on est dans un James Bond. Il va y avoir deux femmes, au moins. Mais deux femmes qui vont avoir une belle importance dont James Bond va obtenir.
Va forcément.
quelques faveurs.
Voilà, les faveurs.
Donc, la première s'appelle Bryce Fitzjohn, c'est une actrice. Il la croise le soir de son anniversaire et puis il va la recroiser en Afrique. Et
alors,
puis
quel âge il a alors, James Bond?
Il a 45 ans en 69.
Ah, d'accord.
Donc, si vous voulez faire sa date de naissance, c'est assez facile.
Il est à la retraite, là.
Voilà. Et donc, il va croiser cette femme et on sent que, bon, elle va à la fois lui attirer des ennuis et lui offrir quelques bons moments.
Et c'est privauté, peut-être.
On va pas tout dévoiler, même si elle le fait. Et puis, il va y avoir une autre femme, entre autres, Grace. Alors, Grace, c'est sa correspondante.
Tu veux dire Grace?
Grace, oui, pardon.
Oui, Grace.
Oui, j'écris Grace, mais c'est Grace, effectivement.
Oui, c'est pas parce qu'on est Agora FM.
Oui, Grace, c'est plutôt Agora. Donc, sa correspondante, en fait, en Afrique, c'est donc ça, voilà. C'est elle qui va l'introduire dans le milieu. Et en fait, il se fait passer au départ pour un journaliste et il va essayer. Sa mission, en fait, telle que M lui a indiqué, c'est il faut que tu fasses, enfin que vous fassiez, puisqu'il se tutoie pas, que vous fassiez cesser cette guerre. Tout simplement, James Bond tout seul, sans arme en plus, parce qu'il part comme journaliste. Il a pas d'arme, seulement quelques petits gadgets dans une boîte dans sa boîte de talc. Il va y avoir aussi, bien sûr, on est dans un James Bond, la CIA, qui va se mêler des choses qui la regardent pas forcément, mais pour la CIA se mêle de tout, donc tout la regarde, et James ne sera pas toujours aussi ravi que dans les films de collaborer
avec
son fameux ami de la CIA. C'est tout à fait réussi. William Boyd fait du James Bond impeccablement. Il sait, bon, on sait très bien qu'il sait écrire, mais c'est pas forcément évident de se couler dans les pages d'un autre romancier. À la limite, c'est presque meilleur, même c'est carrément meilleur que les Ian Fleming, mais il respecte tout à fait, on peut pas dire la Bible, mais le codex.
Voilà, ouais.
Le codex bondien.
Est-ce que il va utiliser quand même ce qu'on a retrouvé dans les films et qu'il n'y a pas du tout dans les Ian Fleming, c'est-à-dire cette surenchère à un moment donné, quoique on semble être revenu en arrière, mais de gadgets, de scènes où il doit mourir 15 fois. Et
non, mais pas du tout. Mais parce que même dans, dans les livres...
Oui,
dans les livres de Ian Fleming, déjà, ça n'existe pas vraiment. Il y a quelques gadgets, mais pas beaucoup. Il y a quelques belles voitures, mais pas beaucoup non plus d'Aston Martin, en fait. Et dans celui-là, d'ailleurs, c'est pas du tout une Aston Martin. Il y a sa voiture. Il veut la changer. Et...
C'est pas une vieille Renault 8 non plus, quand même.
C'est pas une vieille Renault 8, non. C'est une superbe voiture anglaise dont il va faire un petit essai au début du roman. Et ben, peut-être l'achètera-t-il à la fin. Je ne saurais vous le dire.
Ah non. Faut pas dévoiler la fin d'un James Bond. Voilà, ben, alors, on a essayé de chercher une musique quand même qui correspondait un petit peu. Et c'est Philippe qui nous l'a trouvé. Donc, Jacques, tu vas nous annoncer.
Donc, eh ben, c'est
tout
le,
bêtement.
C'est le générique du dernier James Bond ou du précédent. Donc, c'est Alicia Keys et Jack White des White Stripes qui chantent donc le générique de. C'est Quantum of Solace, c'est ça? Voilà, donc on écoute Jack White et Alicia. C'est pas forcément notre tasse de thé musicale que James Bond boit beaucoup de thé. En fait, c'est pas vrai, il boit que du café. Mais en attendant, nous avons à l'antenne, ma chère Corinne, je te laisse le présenter.
Frédéric Priot, on ne le présente plus, notre spécialiste BD.
Salut les amis.
Comment allez-vous?
Ça va bien, il fait beau en Bretagne.
Bah, nous aussi, qu'est-ce que vous croyez? Mais on va laisser le plus de temps possible à la BD, puisque oui. apparemment c'est un florilège du premier trimestre de cette année.
Voilà, quel beau mot, un florilège.
Oui, donc, oui, c'est en Bretagne, il ne faut pas des mots de plus de 3 syllabes, mais de temps en temps, on se lance.
Bon, bah top, ça va alors. Donc, allons-y, j'ai 5 albums à vous présenter. Alors, montre en main. Donc, Firstly, Because It's a Translation, I Will Speak About Before Watchmen. Et je vais vous parler en français maintenant.
Ouf, ouf, oui, mais parce que là, ça n'allait pas le faire. Hein.
Magnifique, n'est-ce pas? Alors, Before Watchmen, chers auditeurs et Corinne Jacques, souvenez-vous, dans les années 90, sortaient les Watchmen qu'on a traduit chez nous par Les Gardiens. D'ailleurs, Manchette avait traduit. Ouais. Les Watchmen. Excellente série d'Alan Moore et Dave Gibbons qui mettait en scène des super-héros vieillissants au pouvoir quasi inexistant, à l'exception de ceux de Dr. Manhattan qui lui faisait de figure de super-héros définitif. Et ces super-héros étaient oubliés de tous et évoluaient dans un monde au bord de l'effondrement. Donc Moore et Gibbons avaient à l'époque donné un bon coup de pied dans la fourmilière des justiciers en costume. Et voilà qu'arrive ce qu'on peut appeler un préquel et pas une séquelle.
Ah, mais ça se fait beaucoup en ce moment.
Hein?
Oui, on a beaucoup.
Le Before Watchmen, donc le concept est le suivant, les auteurs autres que Moore et Gibbons, c'est des auteurs triés sur le volet parmi les plus doués de la génération actuelle des auteurs de comics, s'emparent d'un aspect des Watchmen, et c'est souvent un personnage, pour en faire un récit à part entière. Donc je vais vous parler juste pour ce premier volume, c'est celui qui s'appelle Les Minutemen de Darwin Cook, qui était l'auteur de l'excellente adaptation des Parker de Stark.
Ah oui, c'est ça, oui.
Hein, rappelez-vous, c'était très très chouette. Donc Les Minutemen, c'est une organisation d'aventuriers déguisés, évidemment, constituée de, je donne la liste parce que c'est amusant, du comédien, du hibou, du spectre soyeux, du capitaine Métropolis, du juge masqué, de l'homme insecte, de la silhouette de Bill Dollar, rien que ça. Et voilà. Huit personnages dont les vies et destins avaient été esquissés ou dévoilés par touches discrètes dans les Watchmen et sur lesquels Cook revient avec tout son talent à lui. Et là, en fait, il retrace la carrière des Minutemen. Et là, on pouvait craindre une déception, même légère, parce que les Watchmen, c'est quand même puissant. Ben, en fait, c'est, non, il n'en est rien. C'est très, très réussi. Et l'esprit qui régnait dans la série de Moore et Gibbons, c'est toujours là. Cook, il a choisi de s'appuyer sur le récit autobiographique qu'il y avait dans les Watchmen du Hibou, qui était écrit en non-BD, on va dire, pour en faire l'intrigue, une intrigue qui va à la fin entre les années 60 et les années 40, et où les Minutemen étaient en activité. Bon, alors c'est peut-être un petit peu obscur ce que je raconte, mais il faut savoir que ça marche
très,
très
bien. Pour ceux qui connaissent les Watchmen...
Voilà, et c'est un encouragement à se laisser tenter. Il y a 4 volumes parus, les Minutemen, les compagnons, il y a le Rorschach, qui était le personnage avec son masque qui bougeait tout le temps, et il y a Spectre Soyeux. Donc, il y en aura 6 ou 8, je ne sais plus, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça c'est pour mon premier coup de cœur.
Premier coup de cœur.
Du top 5. Le deuxième, alors là, c'est un album qui annonce sa couleur dès la couverture, un manifestant casqué qui fait face, pavé en main, à un cordon de CRS, ou de force de l'ordre, on va dire, parce que c'est en Allemagne. Donc, la couleur sera rouge, comme celle de l'idéologie qui anime tous les personnages de cette histoire qui se passe dans le Berlin de 1981. Et donc l'album s'appelle Le théorème de Carinthy de Jörg Hulbert et Jörg Meyer. C'est traduit, paru au Rond dans l'eau. J'ai pas dit tout à l'heure, c'est Urban Comics. Là, c'est au Rond dans l'eau en 2014 aussi. Alors le théorème de Carinthy, il est décrit au dos de l'album. Qu'est-ce que c'est? C'était théorisé par un Hongrois, Carinthy, qui dit: tout individu sur Terre serait relié à n'importe quel autre par une chaîne de connaissances personnelles composée tout au plus de 5 maillons. Au début des années 80, la police fédérale allemande se sert de ce théorème pour retrouver la trace de terroristes vivant depuis des années dans la clandestinité. Donc on voit bien le truc, c'est-à-dire on noyote, on essaye d'approcher par les connaissances des terroristes pour essayer de les faire tomber. Donc voilà. Donc le lecteur est prévenu parce que entre la couve et puis le dos, il sait tout de suite qu'il va pas lire un thriller comme il y en a des tonnes, de plus ou moins bien. D'ailleurs, souvent je dis de moins bien, mais plutôt il va se retrouver confronté à l'histoire contemporaine de l'Europe, celle des utopies révolutionnaires, des terrorismes et de leur répression. Donc c'est les années de plomb qui sont celles de l'Italie, mais là celles de l'Allemagne et dont les traces sont encore visibles un peu de nos jours. Et c'est absolument passionnant. Pour raconter la vision de ces mouvements-là, il a choisi de faire de l'intérieur. On suit 2 personnages, tout bêtement, un flic qui s'infiltre avec le fameux théorème, là, qui est l'illustration du théorème, et un chef de réseau. Et ça marche très très bien, et on lâche pas ça. On croirait lire un doc quelque part, mais c'est une fiction. Et ça éclaire un petit peu cette période qu'on a un petit peu oubliée, mais qui...
Oui, voilà. Des périodes récentes qu'on a tues pendant trop longtemps.
Ouais, exactement. Après, troisième album, alors là, particulièrement Bizarroïd, c'est Oceania Boulevard, aux éditions Ici Même. Oui, Ici Même, comme l'album
ici
de
même.
D'un Italien qui s'appelle Marco Galli, 150 pages. C'est première traduction, ça commence très fort. Quelqu'un est en haut d'un immeuble, se jette en bas, il tombe sur un pauvre musicien de rue, voilà. Et puis évidemment, ça fait un gros splash avec du sang partout, éclaboussure écarlate pour tout le monde. Et arrive l'inspecteur Mortensen, un flic un peu taciturne et dépressif, chargé d'enquêter. Et ça commence comme ça, c'est une enquête, et puis ça va se transformer en un truc complètement bizarroïde dans une ville qui est de plus en plus glauque, et on frise le fantastique un petit peu à la Twin Peaks. Donc rien que ça.
Intéressant.
Une très
particulière.
Et ce qui marche bien, c'est par... Bon, alors l'histoire, voilà, c'est ce que je vous décris très rapidement là, mais ça marche très bien parce que la technique employée par Galli pour raconter son histoire, c'est qu'il a des planches, qui sont faites de deux grandes cases par page. Et avec le texte au-dessus ou en dessous, jamais à l'intérieur dans des traditionnelles bulles ou phylactères, comme disent les puristes, y compris pour les dialogues. C'est tout le temps au-dessus ou en dessous et c'est sur fond noir, ce qui fait en plus une impression de cinéma. Il y a plein de petites trouvailles comme ça et c'est une vraie découverte. C'est un éditeur que je connaissais d'ailleurs pas non plus, ici même. Et je vais vous faire une confidence, même c'est la première fois ou des rares fois où j'accorde l'expression roman graphique à une bande dessinée.
Oui, moi j'allais employer d'ailleurs ce terme roman graphique, mais comme je suis béotienne...
Sans détail, voilà. Alors on va dire, là c'en est vraiment un. Oceania Boulevard, chez Ici Même de Mario Galli. Après, j'ai encore un petit peu de temps. Succombe-qui-doit de Ozanam et Rika, chez KSTR. Histoire de quatre braqueurs qui arrivent dans une classe auto qui est tenue par un black solitaire, dénommé José Machado. Alors, les braqueurs en question, ils ont l'air complètement aux abois. Et en plus, ils s'entendent pas entre eux. C'est un peu la panique à bord. Et tout ça ne va pas s'arranger parce que, dans leur panique, en plus, ils projettent ils prennent en otage José, le patron, là, de Casotto, qui n'est autre, qu'ils ne le savent pas, un ancien boxeur de renom, et qu'il faut pas trop chatouiller, et puis en plus, faut pas trop remuer le passé, et tout va partir complètement en vrille et en cacahuète. Donc, c'est très, très étrange aussi, c'est très spectaculaire. Le dessin de Rika est vraiment, fait penser à celui de Burns ou de Meso et Pérus, avec des personnages qui ont des trognes pas possibles. Tout le début est particulièrement réussi parce que les braqueurs arrivent avec des masques d'animaux. On serait arrivé dans une planète des singes gore. Mais non, c'est bien polar. Avec c'est un huis clos dans des décors apocalyptiques assez prenants, terribles. C'est une casse et tout. Voilà, c'est vraiment chouette. Et ça rappelle de Pyrrhus de que je viens de vous citer, l'album Deux Tueurs. Pour l'ambiance, si vous l'avez lu, celui-là, il y a quelques années, une ambiance un petit peu tendue. Donc c'est assez choc avec une fin cruelle que je ne dévoilerai
évidemment pas.
Et pour finir...
Et vous allez réussir la performance, la cinquième en une minute.
Je vais y arriver. Donc on respire un petit peu, on suit le Norman Jones, un Américain de 40 ans, sur les routes de son pays, les États-Unis. Et pourquoi il est sur les routes? Parce qu'il a profité du 11 septembre 2001 pour se faire porter pâle, c'est-à-dire qu'il aurait dû être dans le World Trade Center. Il n'y était pas, tout le monde croit qu'il y est, donc il en profite pour disparaître. Il quitte sa femme, ses enfants, et il part sur la route pensant que ça va être nettement mieux que sa vie qu'il estime ratée. Et en fait, n'est pas Kerouac qui veut, la nouvelle vie attendue, elle est bien au début, parce qu'on est libre et tout, et ça se change vite en galère. Et quand on veut revenir, ça se passe pas aussi bien qu'on le pense, et c'est même très compliqué, surtout qu'on était allé très très loin. Donc, et ça vire au noir vraiment en bout de course. Donc c'est une histoire assez très crédible. C'est Rodolphe qui en a fait le scénario. C'est quand même un vieux routier des scénars et c'est ce qu'il fait. Et George Van Lintout, dessine une Amérique très très présent, très présent, très très, très crédible aussi. Et puis un peu oublié, qui fait pas trop rêver. Mais c'est vraiment un album prenant et puis qui donne à penser, ce qui est peu courant ces temps-ci, je trouve, et qui est bon pour l'intellect, une réflexion.
Ben voilà, ben là, je crois qu'on a... J'avais parlé de florilège, mais voilà. Mais on va finir avec le mot éventail, toujours trois syllabes, avec du bizarre, du un peu déjanté, du très noir, du très...